Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Esprit Occitanie, votre émission Sentinelle d'Humanité. Émission coproduite par l'ANRAS, Association Nationale de Recherche et Action Solidaire. Toujours à la technique et à la réalisation, mon complice Léo et votre serviteur Andrés Atenza. Aujourd'hui, dans notre studio chez El Halimi, je reçois le directeur de la maison d'enfants à caractère social, Monsieur Gérard Brugère. Cette maison se situe à Tarbes, dans les Hautes-Pyrénées, dans le département de Hautes-Pyrénées. Une vieille institution, une ancienne institution, la Montfournet. Monsieur Gérard Brugère, soyez le bienvenu.
Bonjour Monsieur Atenza, merci de m'accueillir dans votre superbe studio.
Chez El Halimi. On rend hommage à cette grande dame. Quelques nouvelles avant de démarrer notre conversation autour de la protection de l'enfance et une maison d'enfants à caractère social. D'abord, le livre blanc du Haut Conseil du Travail Social a été remis officiellement le 5 décembre 2023, récemment, au ministre du Travail, Olivier Dussopt, et à la ministre des Solidarités, Madame Aurore Berger. Ce livre blanc vient compléter les diverses initiatives. J'en rappelle une par hasard, en 2013, ça date déjà un peu, les états généraux du travail social. On avait évoqué à cette époque la crise d'attractivité, la question du sens de ces métiers, la problématique de la formation, la forte dégradation des conditions de travail et d'accompagnement. Ce rapport, le livre blanc 2023, tout le monde apprécie la qualité de ce travail, de la rédaction. Il faudrait quand même rappeler quelques points précis sur la feuille de route possible pour le gouvernement concernant le travail social. D'abord, une reconnaissance matérielle et symbolique significative des métiers du travail social. Bien évidemment, revenir à cette question du taux d'encadrement dans les maisons d'enfants à caractère social, sur la protection de l'enfance notamment, mais pas uniquement. On pourrait aussi parler des EHPAD. La création d'un comité, d'une filière protection de l'enfance, qui est aujourd'hui à la dérive. Une lente dégradation, pourrait-on dire. Bien sûr, la formation, créer y compris un doctorat en travail social, vous savez que ceux et celles qui souhaitent travailler et avancer sur la pensée du travail social doivent aller vers des formations et être accueillis dans des disciplines comme les sciences de l'éducation. Il faudra aussi travailler l'apprentissage et le soutenir. Et quand on dit le soutenir, soyons clairs, il faut le soutenir financièrement. C'est de cela qu'il s'agit. Le secteur est précarisé. Il faudra également relancer le dialogue avec les partenaires sociaux pour une convention unique, étendue et peut-être rénovée. Mais c'est mal parti avec les syndicats, je dis bien syndicats d'employeurs et syndicats d'employés, dont des salariés. J'ai l'impression que la messe est dite et qu'il y a un conflit dans l'air. On continue également avec une autre affaire, l'école inclusive. Oui, c'est l'affaire de tous. Ma place est à l'école, un collectif autour de France Handicap, Droit au Savoir, la Fédération des Parents, la Fédération Générale des PEP, Trisomie 21, lance également un appel. Attention, une petite musique qui monte. La société inclusive est difficile à mettre en œuvre. On n'a peut-être pas les moyens. C'est l'école, c'est l'élève qui doit s'adapter et non pas l'école qui doit s'adapter pour que l'élève puisse trouver sa place. Le choc des savoirs présenté par le ministre de l'Éducation, Monsieur Attal, avec des mesures annoncées, bien évidemment. Tout cela semble beaucoup de com bien faite, cependant. Sauf que les professionnels disent que, encore une fois, on manque cruellement de moyens. On voit bien que l'enquête PISA a montré très clairement qu'il y a beaucoup d'inégalités dans notre secteur. Alors, avec ces nouvelles annonces, avec ce choc dit des savoirs, je ne sais pas si on va améliorer tout cela. Rendez-vous peut-être à la prochaine enquête, mais vous verrez où je crains, comme disent un certain nombre de professionnels, que cela continue à se dégrader. Et pour terminer, un cri d'alarme. Plus de 300 témoignages recueillis en quelques jours par l'Uniops et l'Uriops, une fédération qui accueille les associations des solidarités, handicap, protection, EHPAD. Les associations ne meurent pas toutes, mais toutes sont malades, toutes sont frappées de difficultés, pour certaines en cessation de paiement, pour d'autres l'épuisement le plus total, intérim, manque de professionnels, et un cri d'alarme. Je tiens à faire remarquer à nos auditeurs que la conférence des métiers tenue par l'ancien ministre, l'ancien Premier ministre, M. Castex, le 18 février 2022, il y avait eu un certain nombre d'annonces. Ces annonces ne sont pas tenues. Alors, ce cri d'alarme qui est lancé par l'Uniops et l'Uriops, tous, rendez-vous le 18 février 2024. Il faut se mobiliser. Il faudra faire le bilan. Où en sommes-nous des engagements de l'État? Je rappelle que pour le financement de la sécurité sociale en 2023, il y avait quelques millions qui étaient prévus pour la revalorisation des bas salaires. Nous n'y sommes pas encore. Je crois qu'il y a des oubliés, il y a les méprisés du Ségur. En 2024, le financement de la sécurité sociale, encore une fois, précise quelques centaines de millions d'euros, mais cela tarde. Des femmes et des hommes qui ont des salaires très bas, plus l'inflation. Donc, je vous laisse imaginer dans quel état se trouve tout ce secteur dit social et médico-social. Nous parlerons de tout cela avec mon invité, M. Brugère. M. Brugère, la Montfournet va bien, rassurez-moi. Avec tout ce que je viens de dire.
Alors, je vais vous rassurer pour la Montfournet, puis quand même un peu pour l'Enras, sans faire de, entre guillemets, de plagiat dans ce que vous avez dit. C'est vrai qu'on est un secteur un peu exsangue, on est un secteur en difficulté dans les métiers. Tout ce qui était dit en 2013, on le retrouve en 2024, avec une non-reconnaissance de métiers de plus en plus compliqués, des Ségurs qui ont malheureusement discriminé certains personnels par rapport à d'autres. Des financements qui sont de plus en plus contraints et des populations qui, par contre, à l'inverse, augmentent de plus en plus, notamment dans les maisons d'enfants à caractère social.
Alors justement, votre maison d'enfants à caractère social, la Montfournet, une institution dans le département reconnue depuis de longues années. Alors un peu d'histoire, monsieur Brugère.
Oui, c'est ça, un peu d'histoire. Parce que, en fait, la Montfournet est née tout récemment, on est tout juste jeune majeur, puisqu'on est né le 1er janvier 2004, suite à la fusion de deux maisons d'enfants, qui, elles, par contre, ont un passé glorieux et ancien, qui sont d'un côté les œuvres Lamont et de l'autre côté l'association André-Hubert Fournet, donc qui effectivement s'originait de quelque chose qui est de l'ordre de la congrégation, et suite effectivement à une injonction du département des Hautes-Pyrénées en mars 2003, il nous a été demandé de rebattre les cartes au niveau de la protection d'enfance dans le département des Hautes-Pyrénées.
Et réorganiser, voilà, et de réorganiser les maisons d'enfants.
De réorganiser les maisons d'enfants et le foyer de l'enfance, qui à l'époque, j'en étais le directeur, était un foyer de l'enfance associatif puisqu'il était géré par la GOP, qui est, entre guillemets, l'ancêtre de l'ANRAS actuel. Cette réorganisation, on va dire, sur le moment, a été quand même très douloureuse pour ces deux maisons d'enfants. Le foyer de l'enfance ayant été récupéré par le département pour créer ce qu'on appelle aujourd'hui la maison départementale de l'enfance et de la famille. Donc très rapidement, il a fallu recréer un projet qui a été compliqué pour les équipes parce que forcément cette fusion, elle s'est pas faite avec la motivation de chacun des acteurs.
C'est toujours douloureux une fusion.
C'était une injonction quand même du département. Mais on va dire qu'avec le recul, finalement, c'était un mal pour un bien. Parce que vous demandiez comment se décline l'établissement aujourd'hui. On va dire que depuis 2004, et ce 1er janvier 2004, les équipes ont été, dans un premier temps, lourdement impactées, dans un deuxième temps, lourdement sollicitées pour réécrire, repenser la pratique, se remettre au niveau, tout simplement, hein, de la loi de 2002, puisqu'on était en 2004, de repenser les choses différemment dans nos dispositifs, de réorganiser le fonctionnement de notre structure. Et les équipes ont été et ont répondu complètement présentes. Et non seulement dans la pensée, mais aussi dans l'action et, troisième élément, dans l'écriture. Donc, et depuis, cet établissement se renouvelle quasiment chaque année, crée du projet chaque année. On est passé d'une soixantaine de jeunes aujourd'hui à 122.
Situation donc vous accueillez 122 jeunes dans vos divers dispositifs
tout à fait.
Dont on parlera tout à l'heure.
Et effectivement...
garçons et filles.
Alors, c'est l'établissement mixte. Est mixte H24, sur chacun des groupes. Il n'y a pas d'étage garçons, filles, etc. Des chambres donc peuvent être, sans qu'elles communiquent, être en tout cas voisines. Et effectivement, ça peut aussi témoigner, ça nous a été dit à la dernière négociation budgétaire, aussi d'une confiance qui a été retrouvée par le département dans l'association Horas, dans le fonctionnement institutionnel de la maison d'enfants La Montfournet. Et ils nous ont accompagnés largement, y compris dans des restructurations patrimoniales, puisque depuis 2015, nous sommes propriétaires de l'ensemble de nos sites, que ce soit à Tarbes ou à Bagnères.
Un très beau site, quasiment en centre-ville de la ville de Tarbes.
Alors, pour l'amont, nous sommes en centre-ville de la ville de Tarbes. Le site de Bagnères est un peu excentré par rapport au centre-ville, mais il est quand même magnifique, il a été bien pensé. Et d'ailleurs, dans tous les sites, il a été pensé la prise en charge des jeunes et aussi la qualité de vie au travail pour les salariés, ce qui fait que ça redonne de la dignité pour les jeunes dans l'accueil et de la capacité des adultes à prendre en charge ou à accompagner des enfants et des adolescents, puisque nous les accueillons maintenant de 0 à 21 ans, enfin 0 à 18 et des jeunes majeurs, tant en interne que sur un développement aujourd'hui qui tend à s'accroître, de prise en charge en hébergement diffus, comme l'on dit, avec beaucoup d'appartements dans Tarbes et sa banlieue. Mais on irrigue aussi le département grâce à des dispositifs tels que le placement avec hébergement à domicile.
Alors vous allez nous expliquer tout cela, parce que les divers dispositifs d'une maison d'enfants à caractère social, et donc vous avez des dispositifs qui sont adaptés en fonction des besoins. Alors commencez par exemple d'abord sur l'internat. Allez, vous avez un internat, alors, vous accueillez combien ?
Alors donc, effectivement, nous avons quatre groupes de vie qui assurent de l'hébergement, plutôt que le mot internat,
de donc l'hébergement. Donc ce sont des jeunes qui sont placés par le département,
alors, effectivement,
c'est le juge, c'est une mesure administrative, alors, judiciaire, rentrez dans le détail des dispositifs.
Nous sommes habilités tant au titre de l'aide sociale à l'enfance, donc... ce que vous appelez l'ASE, qu'au titre de la protection judiciaire de la jeunesse. L'un et l'autre des déplacements se fait effectivement à partir d'un juge des enfants, soit dans le cadre de l'assistance éducative, article 375 et suivant du code civil, et au titre de l'ordonnance de 45 pour les jeunes qui relèveraient de la protection judiciaire de la jeunesse PJJ, où là on est plus sur un versant qui peut être pénal. Mais pour autant, on peut avoir des jeunes qui sont suivis par la protection judiciaire de la jeunesse sans qu'il n'ait de mesure pénale, tout simplement dans le cadre d'une AMO. Par contre, nous accueillons aussi des jeunes dans le cadre, donc dans trois autres cadres, dans le cadre d'un accueil provisoire mineur, donc où là, il y a une contradictualisation entre le département et une famille pour l'accompagnement d'un enfant ou d'un adolescent. Et ça ne passe pas par les fourches codines d'un magistrat, c'est ce qu'on appelle le principe de subsidiarité, qui normalement devait être développé, puis il s'avère aujourd'hui qu'on est quand même, c'est très très minime comme type d'accompagnement et de placement. Nous avons aussi, nous faisons partie de l'accueil d'urgence mutualisée dans le département.
Alors urgence mutualisée, c'est-à-dire quand un enfant est en danger,
oui,
il faut à tout prix le sortir de son milieu hostile. Il arrive chez vous.
Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que, ou il peut arriver chez nous. C'est-à-dire qu'effectivement, quand il y a un danger imminent et grave, on va dire la priorité est l'accueil au foyer départemental de l'enfance, enfin, la maison départementale de l'enfance et de la famille. Mais au niveau du département, on est quand même un petit département en termes de nombre. Même si ça augmente, on n'a rien à voir avec Toulouse et sa grande métropole. Mais effectivement, en complément, nous sommes 3 maisons d'enfants dans le département et 2 participent alternativement avec le foyer de l'enfance à l'accueil en urgence dès lors que une situation le nécessite et que aussi nous ayons de la place, ce qui aujourd'hui est quand même particulièrement problématique puisque nous avons une augmentation exponentielle des demandes d'hébergement. Voilà. Alors qu'effectivement, on n'en a pas forcément aujourd'hui les moyens et on ne peut pas pousser les murs. Donc c'est une adéquation difficile à pouvoir œuvrer au quotidien. Et l'autre possibilité, c'est aussi un accueil d'urgence dans le cadre des 72 heures. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une demande jeune ou famille qui nécessite un placement dans le cadre d'une maison départementale de solidarité. Mais cet accueil se limite à 72 heures. Et au bout de 72 heures, en fait, c'est une mesure de séparation immédiate pour essayer de régler le problème.
Il faut régler le problème.
Il faut régler sur le problème. Par exemple, des parents qui sont en cellule de dégrisement suite à quelque chose qui pourrait s'apparenter à du festif.
Les 72 heures, c'est le conseil départemental qui a mis cela en œuvre, le département des Hautes-Pyrénées.
Oui, enfin non, c'est national.
C'est national.
Mais par contre, effectivement, les Hautes-Pyrénées le conjuguent aussi bien au niveau du titre du foyer départemental de l'enfance que des maisons d'enfants. Donc on peut être amené dans l'urgence à faire ces deux types d'accueil dès lors qu'une situation peut être amenée à être dangereuse ou dans le cadre d'un danger imminent. Ou alors, comme je vous le disais, un fait, parfois une hospitalisation en urgence et il faut pouvoir permettre de protéger les enfants, ou alors parfois malheureusement des événements qu'on ne souhaite pas et qui par contre sont limités dans le cadre des 72 heures. À l'issue des 72 heures, il y a une évaluation faite par le responsable de la maison départementale de solidarité, et soit le jeune réintègre son domicile, soit effectivement on le prolonge et on voit dans quel cadre il peut être prolongé, soit dans le cadre d'un accueil provisoire mineur, soit si le danger est largement avéré, saisine du magistrat, avec possibilité, au moins dans un premier temps, d'une ordonnance provisoire de placement qu'on appelle vulgairement OPP. Voilà. Et donc ça, c'est pour l'hébergement. Donc nous avons 4 groupes. Au total, ça fait une quarantaine de jeunes. Voilà, entre 36 et 40 jeunes pour l'ensemble de ces groupes. Et ensuite, nous avons développé différents dispositifs qui sont venus compléter. Alors dès 2004, qui est le successeur de ce qu'on appelait dans les années 80 le SAPMN, donc Service d'accompagnement progressif en milieu naturel, qui s'origine de Nîmes, d'expérience dans le Gard, etc., de la PJJ d'ailleurs. Et donc en 2004, nous nous sommes approprié ce dispositif et au fur et à mesure, dans le cadre des montées en charge, on va dire dans le cadre d'alternatives à un hébergement plutôt traditionnel, ça a donné des résultats plutôt positifs, où effectivement les jeunes restent bien hébergés à leur domicile, mais avec un suivi fait par
vos équipes.
Et c'est bien une mesure de placement, ce n'est pas une mesure de milieu ouvert, c'est une mesure de placement. Et à tout moment, il y a 2 choses qui peuvent être activées dès lors qu'il y a une crise ou quelque chose qui, entre guillemets, peut nécessiter le fait d'une petite séparation. Donc là, on est dans un miroir inversé, c'est-à-dire que les enfants restent et les adolescents à leur domicile. Et quand il y a crise, il y a séparation. Et on a 2 mesures, soit une mesure de répit, puisqu'il est important parce que des tensions intrafamiliales s'avèrent un peu compliquées. On fonctionne beaucoup sur la base de la systémie et on prend bien l'ensemble du système familial comme étant une donnée pour éviter de nommer ou de discriminer l'un ou l'autre des éléments de la famille. Et ça nous permet de reposer, c'est le cas de le dire, un peu comme le bon vin, de le laisser un peu se décanter. Mais vous y connaissez mieux que moi en vin, hein, monsieur Atenza. Ça laisse un peu décanter la situation et ça nous permet d'avoir un petit pas de côté et de reprendre les éléments. Et ça, c'est la mesure de répit. Ça donne un répit à chacun d'entre nous et ça fait baisser un peu la température ambiante.
Et quels sont les professionnels qui se déplacent au domicile de l'enfant?
Si vous me permettez. Et la deuxième mesure, c'est la mesure de repli.
De repli.
C'est-à-dire quand, effectivement, on se rend compte que le répit n'est pas suffisant, il y a une mesure de repli, et auquel cas l'équipe du PHD, qui donc le placement avec hébergement domicile aujourd'hui, qui est une entité à part entière dans notre structure, on va dire, passe d'une mesure où ils vont au domicile à une mesure où ils font de l'hébergement eux aussi. Et donc on accueille le jeune dans un groupe bien distinct des autres groupes de vie de la structure, et on essaye de remédier, c'est le cas de le dire, au niveau de la situation, et on fait ce que, entre guillemets, tout travailleur social sait faire, à savoir le tiers social, et on reprend l'ensemble des données familiales, le contexte et ce qui a pu se passer, de telle manière que l'objectif, c'est que cette mesure de repli soit la plus courte possible, puisque l'idée, c'est de maintenir, on va dire, au maximum, la qualité qu'il y a d'accompagnement au domicile.
Voilà. Les enfants sont scolarisés à l'école, dans les collèges, tout à fait, dans les lycées du coin, il n'y a pas de rupture. Vous essayez de maintenir la vie la plus ordinaire possible.
Il y a un choix qui a été fait dans le département des Hautes-Pyrénées aussi, très très fort. Il n'y a pas de centre éducatif et professionnel. Donc nous sommes plusieurs, mais notamment la maison d'enfants d'Amont-Fournet, une maison d'enfants qu'on pourrait considérer comme traditionnelle. On fait de l'hébergement. Ce sont les modalités d'accueil et d'hébergement qui ont évolué. Par contre, le contexte est le même, à savoir, nous travaillons avec le droit commun. 80% des jeunes aujourd'hui sont scolarisés. Alors forcément, on parle plus souvent, malheureusement, des 20% qui restent, parce que ceux qui sont, qu'on peut dénommer les cas complexes, des jeunes à difficultés multiples, des jeunes qui présentent des problématiques croisées, forcément nous mettent en difficulté. On n'est pas meilleur que les autres, donc ils viennent nous chercher dans des limites qui font que on doit puiser dans nos ressources, y compris affectives, parce que c'est de temps en temps compliqué. La violence est forcément aussi présente, donc y compris dans notre charge émotionnelle, mais aussi dans notre pensée réflexive, puisque un des points forts de l'établissement et une des doctrines qu'on essaye d'appliquer, en tout cas dans le cadre d'une forme de bienveillance, nous n'excluons aucun jeune de l'établissement, même les situations les plus compliquées.
Même les situations les plus difficiles, on essaye fort de maintenir et que tout le monde se mobilise.
On essaye effectivement toujours de trouver des mesures de répit. À l'ANRAS, heureusement, il y a eu un travail qui a été fait, notamment sur la possibilité de mettre en place des conventions relais avec des collègues pour donner une respiration aux jeunes, aux autres jeunes du groupe, à l'équipe éducative. Mais c'est une respiration, c'est un jour renouvelable. Mais dans tous les cas de figure, il n'y a pas d'exclusion. Et dès lors qu'on est en difficulté, on se fait fort de chercher, autant que faire se peut, d'autres solutions. Ce qui met à mal forcément les équipes, parce que ça nous oblige à garder les jeunes coûte que coûte. Mais par contre, les jeunes l'ont bien compris. Et même quand c'est compliqué, ils le rendent bien à l'équipe et l'équipe le rend bien aux jeunes. Et on arrive toujours à ressortir de là un peu par le haut, même si c'est parfois très compliqué en termes de comportement, de dégradation, etc.
C'est comme toujours des jeunes qui viennent du département. Il n'y a pas d'autres départements. C'est rare.
Nous avons, dans notre financement, on a deux sources de financement. Donc, on a deux formes d'agrément, je l'ai dit, à ZEPJJ. Et là, on a deux sources de financement. Nous sommes en dotation globale. Et dans le financement, nous sommes en dotation globale pour à peu près 97% financé par le département des Hautes-Pyrénées. Qui, pour autant, regarde des demandes de placement. Aujourd'hui, on a 120% de placement de l'activité qui nous est demandée par le département, et effectivement sur une base quand même de 95 à 97% de financement en dotation globale, mais qui présente certains avantages, mais quand on n'a pas beaucoup d'effectifs. L'inconvénient, c'est quand on est en sureffectif chronique, comme c'est le cas actuellement. Et le complément, c'est-à-dire les 3-4%, ce sont un financement par prix de journée de département extérieur, ce qui nous permet d'avoir des jeunes aussi, avec une autre source de financement qui nous est financée par les départements. Alors, extérieurs, souvent, ils sont limitrophes, c'est souvent la Haute-Garonne, puisque visiblement, il y a un déficit pas mal de places. Haute-Garonne, Gers, et un petit peu Gers, et Pyrénées-Atlantiques, donc pas forcément la même région.
De la même région. Quand vous parlez du financement et de dotation globale, le budget de votre maison d'enfants à caractère social sur l'ensemble des dispositifs, c'est combien ?
Alors aujourd'hui, nous sommes entre 5 et 6 millions d'euros.
Voilà. Et pour combien de personnel qui travaille ?
Une petite centaine. En équivalent temps plein, on est un peu plus de 90 avec tous les dispositifs, puisque nous avons 3 dispositifs temporaires actuellement qui nous ont été demandés et validés par le département. On a répondu à un appel à projet pour un deuxième placement avec hébergement à domicile fin 2022. Il a ouvert ses portes en janvier 2023. Il est pour 3 ans, même si c'est un appel à projet. Il est complet, forcément. Donc là, on a déjà rien que 40 jeunes dans une prise en charge à partir du domicile. En 2017, on a fait une proposition au département parce que il y a toujours une vocation un peu frontalière, donc d'accueil de jeunes migrants.
Ah oui, les jeunes migrants qui viennent et ils traversent la frontière où exactement ? Du côté du Pays Basque ou ils viennent
souvent.
Oui, souvent le Pays Basque, ils arrivent chez vous.
Maintenant, ils sont plus modernes, ils arrivent par le train
directement.
Parfois d'Italie, souvent d'ailleurs même d'Italie. Mais ils arrivent on va dire qu'il y a deux grandes voies, il y a l'Espagne et puis on va dire le sud-est. Où effectivement, dans leur parcours migratoire, pardon, ils arrivent en Italie et voilà.
Alors, ce sont ces jeunes mineurs.
Ils arrivent à Tarbes.
Mineurs non accompagnés, ils arrivent à Tarbes. Pour nos auditeurs, on sait qu'il y a un problème, qu'il y a beaucoup de départements qui se sont désengagés, qui ne veulent pas les accueillir, qui sont en difficulté avec la puissance publique et notamment l'État. Donc, il y a des collectivités territoriales qui négocie en disant on n'a pas les moyens de le faire. Il y a des problèmes de l'évaluation de la majorité ou de la minorité sur le département des Hautes-Pyrénées. Qui fait ce travail? Et vous, vous faites quelle partie du job, pourrait-on dire?
Alors, donc, jusqu'en 2017, ce qu'on appelle l'évaluation de la minorité et de l'isolement était assurée par le foyer de l'enfance.
Donc, le département.
Le département. Sauf que effectivement, une des limites, c'était que le nombre grandissant, leur périmètre d'intervention était plus compliqué. Donc nous, à l'amont, on leur a proposé en fin 2016, puisqu'on avait déjà entamé ce travail il y a 3-4 ans auparavant, à peu près dans les temps de la circulaire Taubira, on a fait une proposition d'accueil de jeunes migrants en phase 2, c'est-à-dire après l'évaluation.
Après l'évaluation.
Donc ils nous ont autorisé ce dispositif pendant 18 mois, puis ensuite 3 mois. Maintenant, il est pérennisé. Donc, à 15 ans. Et nous accueillons grosso modo 14 jeunes sur ce dispositif qui est hébergé dans nos murs. Et ça, c'est la phase 2, c'est après l'évaluation de la minorité et de la majorité et de l'isolement. Nous avions expérimenté en 2018-2019 cette possibilité de prendre relais du département sur l'évaluation de la minorité et de l'isolement, à l'instar de ce qui se fait dans les Daomi toulousains de l'Enras. Il s'avère que ça a été très positif. La difficulté, c'est qu'il y avait une trop grande promiscuité en termes de bâti dans la maison d'enfants, et ça créait des confusions aussi des places de chacun entre l'évaluation et ceux qui faisaient la phase 2, où on devait commencer à mettre en œuvre du projet, puisqu'ils étaient confiés au département, ce qui n'est pas le cas quand ils arrivent, tant qu'on n'a pas une décision de justice.
Une décision de justice sur la minorité.
Voilà, tout à fait. Donc il y a eu un appel à projet, on n'y a pas répondu, pour deux raisons toutes simples, qui sont liées au fait que financièrement, la dotation était insuffisante à notre niveau, et que l'utilisation du dispositif DATA, donc dispositif d'accueil temporaire d'adolescents, donc on n'a pas mis le mot migrant ni MNA exprès, créer des confusions de fonctions, de places et de rôles des équipes éducatives, et pour les jeunes, ils ne s'y retrouvaient pas, puisqu'il y avait un mélange de populations. Il s'avère que le département, donc dans le cadre de cet appel à projet, a donné, on va dire, un avis favorable pour un autre opérateur. Ouais. Et donc, on travaille avec cet autre opérateur. Et c'est vrai qu'il y a une file active, il y a quand même, effectivement, après cette évaluation, une arrivée, donc, dans notre dispositif. Et ensuite, dans le dispositif, on les réoriente, à partir de ce dispositif, vers les groupes de vie de la maison d'enfants, mais aussi les dispositifs autonomie des autres structures qui existent dans le département, de telle manière que les jeunes puissent poursuivre leur parcours non plus migratoire, mais d'insertion et d'intégration en France.
Dans notre société.
Voilà, et dans notre société d'une manière générale, et pas forcément uniquement un mec à Montfournet. Et donc on a créé, puisque du coup c'était aussi embolisé, un autre dispositif que nous appelons ESCAL, qui est ni plus ni moins qu'un tremplin vers
ces dispositifs. Ça porte bien le nom,
voilà,
ce
dispositif dans l'attente de place, puisque c'est embolisé quand même au niveau du département. Donc pour répondre à votre question, le département joue le jeu, le département finance, le département essaye de nous donner les moyens, mais lui-même a des moyens limités. Et pour autant, le flux migratoire continue d'augmenter.
Il augmente.
Et une des questions qu'on s'est posées la dernière fois, c'est comment, non pas endiguer, mais qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en œuvre pour répondre à l'ensemble de ces demandes, même si le département a la volonté d'y répondre. On a un département plutôt positif dans l'accompagnement et dans la protection de l'enfance. Là, on ne va pas se plaindre de ça.
Avant d'aller plus loin sur la maison d'enfants, la Montfournet, et l'ensemble des dispositifs, allez, un peu de nostalgie, Vianney qui chante Delpech.
Qui devient gênant, ma pauvre Cécile. J'ai 73 ans, je fais de la chaise longue et j'ai une baby-sitter. Je traînais moi la jambe quand j'étais chanteur. J'avais des boots blanches, un gros ceinturon. une chemise ouverte sur un médaillon. C'était mon sourire, mon atout majeur. Je m'éclatais comme une bête quand j'étais chanteur. Un soir à Saint-Georges, je faisais la kermesse. Ma femme attendait, planquée dans la Mercedes. Elle s'est fait jeter dans l'Indre par tout mon fan club. J'avais une vie dingue quand j'étais chanteur. Les gens de la police me reconnaissaient. Les excès de vitesse, je les payais jamais. Toutes mes histoires s'arrangeaient sur l'heure. On pardonnait tous mes écarts quand j'étais chanteur. J'ai 73 ans. J'ai appris que Mick Jagger est mort dernièrement. J'ai fêté les adieux de Sylvie Vartan. Pour moi, il y a longtemps que c'est fini. Je comprends plus grand chose aujourd'hui, mais j'entends quand même chose que j'aime et ça distrait ma vie. Pour moi, il y a longtemps que c'est fini. Je comprends plus grand chose aujourd'hui. Mais j'entends quand même des choses que j'aime.
Esprit Occitanie, sentinelle d'humanité, avec le directeur de la maison d'enfants à caractère social de la Montfournée, située à Tarbes, dans les Hautes-Pyrénées, Monsieur Gérard Bougère. Nous étions en train de décliner l'ensemble des dispositifs et nous parlions des jeunes migrants que vous accueillez, que vous hébergez. Et puis, ce sont des jeunes qui s'intègrent, qui réussissent parfaitement les études. Certains vont vers des filières professionnelles, comme on dit, dans des métiers en tension. Ça se passe bien avec ces jeunes migrants?
Alors, globalement,
voilà, c'est globalement, une sortie positive, pourrait-on dire.
On va dire que, globalement, dans l'évolution aujourd'hui, ce sont des adolescents, on le dit non pas de manière démagogique, mais comme les autres. C'est-à-dire qu'on est dans un rapport relativement identique, en tout cas peut-être, on est plutôt dans 90% de jeunes pour qui, effectivement, le souci de travailler et gagner de l'argent étant tellement prégnant d'emblée,
chez eux, oui,
que ça positive la relation, parce qu'ils ont une vraie envie, etc. L'inconvénient, c'est que du coup, on saute certaines étapes d'intégration sur l'apprentissage de la langue, sur certains codes sociaux, etc. Mais ils ont une vraie envie de s'intégrer, réelle, et une vraie envie aussi de gagner de l'argent. Alors parfois, on va gagner de l'argent pour l'envoyer aussi au pays, comme ils disent. Et donc, ces 90%, on en a quand même qui sont en fac,
mais
qui sont en master.
Il ne faut pas oublier, comme ce que vous venez de dire, c'est un petit détail, mais parfois les petits détails, les signaux faibles, comme on dit, parfois ce sont des jeunes qui sont envoyés directement par les familles, ils n'en peuvent plus, c'est la misère totale, quoi.
Tout à fait.
Et ce sont des jeunes enfants qui, parfois, nourrissent une famille qui est restée au pays.
Tout à fait.
On néglige ça. Hein.
Et ça met une pression supplémentaire. C'est-à-dire que c'est un devoir. Donc, dans le sens, il faut les remercier, il faut remercier la famille de nous envoyer en Europe et notamment en France. Mais le premier des remerciements, c'est de renvoyer quand même un peu d'argent au pays. Ouais. Parce que, effectivement, quand vous savez ce qu'ils gagnent en France et comment ils vivent dans leur pays, le moindre euro est quand même important.
Ce qui veut dire que le retour est quasiment impossible, ça, c'est un échec, quoi. Ils ne reviennent pas au pays, ces jeunes.
Ah, disons
c'est rare, c'est rarissime.
On n'a eu aucun retour au pays. Honnêtement, depuis que je suis en tout cas modestement à l'amont, on n'a eu aucun retour au pays. Les jeunes s'intègrent. Je vous dis, on a quand même, y compris dans ces 90%, des jeunes qui poursuivent des études en fac. Donc, il y a une vraie volonté. Hein. C'est impressionnant. Hein. Mais bon, peut-être que c'est lié aussi à la réelle volonté de ces jeunes migrants de s'insérer dans une société qui n'est pas facile. Hein. Elle n'est déjà pas facile pour les jeunes, quels qu'ils soient, quelles qu'en soient leurs origines, et notamment qu'elles soient françaises ou pas françaises. On est dans une société très compliquée pour les jeunes. Mais pour ces jeunes-là, il y a des facteurs qui peuvent être handicapants ou discriminants. Je dois avouer que je suis plutôt fier du parcours qu'ils réussissent. Hein. Après, on a 10% de jeunes. Alors là, un peu comme pour les autres 20% que nous avons au sein de la maison d'enfants, nous avons quand même 10% de jeunes qui sont des enfants de la rue, qui sont dans le système D, qui sont dans la banque, qui sont dans le réseau, parfois ils sont dans la dette. Donc on est souvent sur un versant délictueux assez prononcé. Alors je l'ai pas dit, mais... on a quand même beaucoup de jeunes qui ont été traumatisés. Alors, je vais pas vous dire 100% de ces jeunes, j'ai pas de pourcentage. Mais on a beaucoup de jeunes où le côté affect et le côté psychologique a quand même été prégnant. Il faut pas oublier qu'il y a quand même un abandon, même si la famille leur a demandé. Donc, il y a une forme d'abandonnisme aussi qui se joue, à savoir des jeunes qui sont loin de chez eux, qui effectivement ont besoin de téléphoner, ont besoin d'avoir des nouvelles. Et c'est parfois porteur d'angoisse, de stress.
Et ces fameux 10%, vous dites, c'est vraiment à la marge. Et si parfois c'est la délinquance, vous les perdez de vue. Parfois, ils disparaissent dans la nature ou ils partent. Dans les centres éducatifs fermés, s'il y a vraiment un délit important, est-ce que vous avez,
alors,
à votre connaissance, est-ce que vous savez ce qui est possible, bien sûr,
des jeunes comme information. Des jeunes qui sont sortis de la maison d'enfants, bien sûr qu'on a perdu de vue, c'est évident, parce que donc ils ont dû aller certainement gagner leur vie par des moyens que l'on connaît pas forcément et qui sont peut-être plus dans le département. Pour autant, de ces 10%, la majorité sont encore dans le département. Mais c'est vrai que dans ces 10%, la majorité qui reste dans le département est quand même repérée énormément sur le versant délinquentiel, sur le territoire tarbais et ses environs. Et malheureusement, comme pour les autres non-migrants, ils font quelques allers-retours, effectivement, soit en CEF, c'est arrivé,
soit en prison. Soit malheureusement en prison.
Soit en prison.
Alors ça, pour un éducateur comme vous, hein, c'est un échec comme ça, de voir ces jeunes comme ça, ça vous affecte personnellement,
alors,
aux équipes
on va dire que...
C'est vrai qu'on veut sauver, mais on ne peut pas sauver la terre entière.
Oui, on ne peut pas tout réparer.
Non, et on peut pas
tout
réparer.
Ce que je veux dire, c'est que un des travaux qu'on doit mener à titre perso, c'est aussi le fait qu'on peut pas, au-delà de vouloir sauver le monde, etc., c'est qu'il y a parfois, il faut le reconnaître, en toute humilité, on est impuissant. Il y a des éléments qui nous échappent, et on peut pas réparer à tout. On n'est pas dans la toute-puissance. Enfin, la toute-puissance du travailleur social...
Non, ça n'existe pas.
Ça fait longtemps que j'en ai fait le deuil, très très longtemps même. Par contre, effectivement, faut le mettre au travail, parce que c'est pas toujours bien vécu, le fait qu'on n'y arrive pas avec un jeune, ou qu'on le revoit et qu'on sait qu'il sort de prison. Oui, c'est compliqué. Et là, c'est l'affectif qui prend le dessus. Pour autant, même si dans un premier temps, on le vit comme un échec, en tout cas, à mon niveau, quand je les revois, je le vois pas comme un échec. Ils sont dans une société qui est pas simple. Ils en ont pas accepté tous les codes. Et je postule du fait, en étant un peu optimiste, puisqu'on en a quand même pour certains, ça s'est passé comme ça, que, comment vous disiez, vous, monsieur Atenza, le moment caïrique.
Ah ouais.
Alors voilà, donc.
Il y a un moment opportun pour. Voilà, je pense que ces
jeunes, voilà, il y a des jeunes qui ont pas accepté les codes, qui ont pas voulu, qui étaient rebelles, qui peut-être avaient des difficultés avec la loi, ou la transgression. Et puis, au fur et à mesure, vous avez des jeunes qui ont fait ces allers-retours, et puis qui arrivent à prendre conscience, alors je ne vais pas parler de maturité, mais qui arrivent à prendre conscience de certaines choses, et puis par le hasard des rencontres, Rencontrer une fille qui s'intéresse à vous, rencontrer l'amour, fonder une famille. Et j'ai retrouvé des jeunes 10-15 ans après, qui avaient malheureusement essaimé pas mal de fois des séjours en prison, qui s'étaient un peu rangés.
Au bout du bout, s'étaient rangés.
Après, effectivement, ils n'ont pas une vie telle qu'on la souhaiterait pour tout le monde, la vie rêvée pour tout le monde, mais ils ne font plus ces allers-retours, ils ont trouvé une forme de stabilité. Et cette stabilité leur est donnée par une construction liée à des rencontres plutôt positives, effectivement.
Si on parle de votre équipe, alors il est composé, vous m'avez dit, à peu près une centaine de personnes. Qu'est-ce qu'on retrouve? Les catégories socio-professionnelles et les professionnels qu'on retrouve dans une maison d'enfants à caractère social? Alors j'imagine, bien sûr, beaucoup d'éducateurs, mais pas que. Éducateurs, éducatrices et qui d'autre?
Je ne sais pas si je vais choquer, mais en tout cas, c'est le discours que je tiens dans l'établissement. C'est qu'effectivement, notre cœur de métier, c'est l'éducatif. Et donc, j'ai 80% du personnel, ça correspond à peu près au budget, hein, 80% du personnel qui est sur le secteur éducatif.
Éducateur, moniteur éducateur, éducateur, EJE.
Alors, on a revu et corrigé, au regard des évolutions de nos dispositifs, des hébergements, aussi... on va dire, l'organisation de nos équipes, elles sont de plus en plus interdisciplinaires et transversales dans la même équipe. On peut avoir dans les équipes des éducateurs, des moniteurs éducateurs, des éducateurs de jeunes enfants, des conseillères en économie sociale et familiale, des assistants de services sociaux, au même titre qu'on peut avoir des maîtresses de maison, puisqu'on a fait un gros travail d'intégration des maîtresses de maison dans la sphère éducative. Alors, j'en oublie certainement, des TISF, etc. Mais on s'est rendu compte que, par exemple, dans notre PhD, nous avons embauché une TISF.
Dans le TISF, pour nos auditeurs,
c'est une travailleuse en intervention sociale et familiale.
Voilà.
Donc,
merci.
Ou une technicienne, pardon.
Technicienne.
Mais ce que je veux dire, c'est que on a rendu nos équipes plurielles. Le regard, maintenant, il doit être complètement croisé. Il ne peut pas être, alors que quand je suis arrivé à l'AMO, on n'avait que des moniteurs éducateurs et des éducateurs. On a un panel de points de vue, de regard. Pourquoi? Bah, parce qu'aujourd'hui, dans ce qui nous est demandé dans l'accompagnement, on va dire, c'est de plus en plus étendu. On ne fait pas juste de l'activité pour de l'activité. Donc, on bosse tant sur l'insertion sociale, professionnelle, on parle d'inclusion, on parle de scolarité, on fait du soutien à la parentalité. Alors, ça ne s'improvise pas parce que c'est hyper compliqué. C'est pas pareil que de la médiation familiale. Enfin, nos métiers se sont quand même très largement
complexifiés également.
Complexifiés, professionnalisés. C'est voilà. La difficulté aujourd'hui que nous avons...
Vous n'avez pas de difficultés de recrutement dans le département, si ?
Donc 80% c'est la sphère éducative, puis 20% pour moi c'est pas les plus importants, mais c'est souvent les plus mésestimés, et pour moi ils répondent aux besoins fondamentaux. On ne peut être éducateur dans une maison d'enfants, en tout cas dans quel que soit le dispositif, mais puisqu'on parle de la maison d'enfants, que parce que les besoins fondamentaux de l'enfant sont assurés. Et là, les services généraux, les services administratifs, ce sont des gens de l'ombre, mais qui font un boulot énorme. Et c'est ce qui amène aussi de la paix. Quand un éducateur sait que ce soit les documents, que ce soit les rapports, que ce soit le linge, que ce soit les repas, la qualité des repas.
La qualité des repas, c'est important.
On est dans le sud-ouest. Donc,
dans notre maison, oui.
Voilà, donc forcément, quand vous savez que ces besoins fondamentaux sont assurés, ça ne veut pas dire que l'accompagnement éducatif est gagné. Mais vous savez, à un moment donné, voilà, que vous n'êtes pas seul, et ça facilite la relation. Parce que quand vous mangez mal... Ben, je peux vous assurer que le repas, on m'a appris qu'il était éducatif, et ben, je peux vous assurer que l'éducatif dans le repas, quand il est pas de qualité, c'est quand même un peu plus compliqué à gérer pour une équipe éducative, en tout cas pour des éducateurs.
Vous avez une équipe de direction qui vous accompagne, vous n'êtes pas un directeur isolé, vous avez une équipe...
Non, un peu dictatorial, mais pas isolé.
C'est ça, c'est ce que vous me dites, oui.
Voilà, c'est ça. Donc oui, équipe de direction qui elle aussi a grandi. Alors, elle a grandi et elle a mûri. Jusqu'en 2016, l'équipe de direction était composée de 4 personnes, donc 2 chefs de service, directeur adjoint, en l'occurrence directrice adjointe, les deux de très grande qualité, et le directeur que je suis, puisque j'écume cet établissement depuis près de 20 ans. Il est temps que je parte, monsieur.
Alors, on va parler de votre parcours. Oui.
Et aujourd'hui, avec l'expansion qu'a pris l'établissement, 60 à 122, explosion de plein de dispositifs, avec de l'hébergement diffus. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, on est un peu plus de 90 ETP. L'équipe de direction, c'est 5 chefs de service, une directrice adjointe et un directeur.
Et quand vous recrutez des gens du coin ou vous allez chasser, comme on dit, des compétences dans les départements limitrophes?
J'ai jamais été un grand chasseur ni un grand pêcheur, ou alors pas selon les termes que vous voulez évoquer. Très compliqué le recrutement aujourd'hui. Que ce soit pour les cadres, on a fait passer une offre d'emploi de chef de service. Quatre candidatures avec le diplôme requis.
Quatre candidatures.
Oui, avec le diplôme requis.
Ah oui, il faut le diplôme.
Au niveau national. Alors c'est vrai que le recrutement dans l'établissement se fait toujours sur la base du diplôme. C'est important. Ça ne veut pas dire que c'est une validation à 100% d'une compétence. Mais en tout cas, la qualification,
il y a un socle théorique,
il y a quand même un apprentissage, comme vous dites, du verbatim, il y a quand même un recul qui est aidant, etc. Et ben, pour autant, aujourd'hui, que ce soit sur des éducateurs spécialisés, quels que soient les postes, c'est très, très compliqué. Alors, on s'en sort pas trop mal parce qu'on arrive toujours un peu à trouver, mais jusqu'à quand? Parce que ça renvoie aussi à la question de l'attractivité. Et dans l'attractivité, il y a les salaires, et vous avez parlé du Ségur, donc les éducateurs dans la sphère éducative long. Mais il y a aussi une attractivité de la difficulté du métier. Aujourd'hui, les maisons d'enfants, je l'ai vu puisqu'on vient de finaliser notre évaluation externe.
Il faut que vous nous en parliez, parce que tout le monde attendait l'évaluation. Elle est arrivée, ça se passe bien.
Ça se sanitarise quand même.
Ah oui?
Et beaucoup. Ah ben oui,
ça veut dire quoi? C'est une critique dans votre bouche?
Alors,
il y a trop de normes, il y a trop de...
Non.
C'est pas la question de la norme.
La question de la norme, effectivement, de toute façon, en France, on fonctionne toujours avec la loi hospitalière, après ça touche le médico-social et puis après le social. Mais on sait très bien que quand ça touche l'hospitalier, ça va pas tarder à arriver
au social.
Ce qu'on sait jamais, c'est quand ça va arriver.
Mais ça arrive.
Et donc, quand vous prenez les critères d'évaluation de l'HAS, de temps en temps, c'est un peu déconnecté d'une maison d'enfants en caractère social. Donc, de fait, c'est un peu compliqué.
Mais il y a eu une adaptation, vous êtes...
Oui, alors on s'est adapté, mais bon, ceci dit, quand on voit les critères qui sont sollicités, sans parler de méconnaissance, en tout cas, c'est pas toujours adapté à la question sociale. Et l'autre élément qui est plus critique, alors bon, il faut que je sois vigilant, parce que je voudrais quand même pas dire quelque chose que je ne pense pas, mais il est évident qu'aujourd'hui, pour avoir quand même œuvré pendant plus d'une dizaine d'années comme chef de service dans le médico-social, il y a de moins en moins d'hébergements. Et nous avons eu la responsable départementale de l'ARS au moment de l'ODPE, c'est l'organisation départementale de la protection de l'enfance, force est de constater qu'ils développent des dispositifs, mais des dispositifs qui sont alternatifs à l'hébergement. De fait, tous ces jeunes qui ne sont plus hébergés dans le médico-social, dès lors qu'il y a un problème familial avéré,
ils viennent chez vous.
Ils arrivent à la ZEU.
Ou ils arrivent
à la ZEU.
À l'aide sociale
de fait,
à l'enfance.
Et oui, ils arrivent
et
à l'aide sociale
à l'enfance.
Je dois avouer, on n'est pas opérationnel dans les maisons d'enfants. On est bien une maison d'enfants à caractère social et pas à caractère sanitaire. Et là, on a un problème de compétences. Donc, de fait, quand on trouve des éducateurs qui ont envie de bosser dans le social et qui se retrouvent avec des problématiques croisées qui nous dépassent parfois, on les comprend pas. Ça veut pas dire que on n'en veut pas. Ça veut dire simplement qu'on sait pas forcément faire, quoi. Et là, on a besoin de ce partenariat. Alors là, le partenariat, c'est quand même beaucoup plus compliqué.
C'est très difficile à mettre en œuvre.
Ah oui, on en parle.
Coopérer, partenariat, c'est des mots qui...
On en parle tous comme des livres, moi le premier. Et je dois avouer que c'est quand même pas facile. C'est très compliqué. On a quand même pas les mêmes logiques d'acteurs. On n'a pas la même pensée. On n'a pas le même détour. Je veux dire, Et l'idée, c'est pas d'opposer. Parce qu'on pense que quand on dit ça, ou quand je dis ça, ça oppose et ça vient cliver. Pas du tout. Moi, j'en appelle de tous mes voeux à des choses qui sont croisées. La difficulté, c'est la durée. C'est-à-dire que ça ne tient pas dans la durée. Donc, comment demander à un éducateur spécialisé qui est difficile à recruter dans une maison d'enfants parce qu'il est face à des problématiques un peu compliquées, qu'on vienne en plus des jeunes d'aller au tribunal, de faire du soutien à la parentalité, de faire de la médiation familiale, etc., récupérer des enfants qui ne peuvent pas rester dans le médico-social. On en fait quoi? C'est pris en charge par qui? Et nous n'avons pas de plateau technique thérapeutique, médical, rééducatif, etc. On n'a que des éducateurs, entre guillemets, en parlant poliment.
Je vous propose maintenant de partir en Amérique latine et plus précisément en Colombie. Vous allez voir, c'est une curiosité.
¡Vamos!
Esprit Occitanie, sentinelle d'humanité, toujours avec Gérard Bougère, le directeur de la maison d'enfants à caractère social, La Montfournée, située à Tarbes, dans les Hautes-Pyrénées. Nous avons fait le tour, Monsieur Bougère, de vos dispositifs, de votre personnel. Vous avez abordé la question de la coopération avec le secteur sanitaire, médico-social. Félicitations pour l'évaluation. Vous m'avez dit que ça s'est bien passé, l'évaluation. Donc, vous êtes bien noté. On peut dire ça?
Alors l'évaluateur nous a dit...
Il vous a dit quoi, l'évaluateur?
Le chef évaluateur nous a dit qu'il ne fallait pas attacher beaucoup d'importance à la cotation, et non pas de notation. Pour autant, on est tous très scolaires, ça nous renvoie quand même à nos chères
études.
Oui,
quand même, tout le monde veut la note.
Voilà, c'est ça, c'est-à-dire que... Donc quand on est comme moi, plutôt poursuivi par ses études, donc du coup, vous vous dites, mince, il faut qu'on soit premier de la classe.
Bon, alors, c'est quoi la note?
Non, je dois dire que je suis fier quand même du travail que fait l'équipe de la maison d'enfants au quotidien. Ça fait très longtemps qu'on avait instauré avec mes collègues directrices adjointes dans les années 2012-2014 un comité de suivi de démarche qualité suite à la première éval interne et externe
de 2014-2015,
c'est ça. On l'a poursuivi, je dois avouer que j'ai des collègues qui me permettent de rien faire, donc du coup qui bossent, chef de service, directrice adjointe, et aujourd'hui on en a recueilli quand même
le fruit de l'investissement
et de bons bénéfices, avec un retour plutôt positif, enfin même très positif quand on le lit, de l'évaluation. Bon, il y a bien forcément et heureusement des choses à pouvoir peaufiner, travailler, il y a des plans d'action à mettre en place. En fait, là où on a été le plus en difficulté, c'est tout ce qui tournait autour du suivi médical des enfants. Dans une maison d'enfants, ça nous a mis un peu en porte-à-faux, alors qu'on avait quand même quelques éléments qui avaient été travaillés. Mais on voit bien que aujourd'hui, la question de la responsabilité, la question de l'usager, la question du soutien à la parentalité, la question du fait qu'une maison d'enfants, pour parler d'une maison d'enfants, puisqu'on est là aujourd'hui pour ça, voilà, on n'est plus seul, on n'est plus unique, on n'est pas dans la toute-puissance, et on doit faire avec les actes usuels, les actes non usuels. Enfin, c'est un langage qu'il faut. Alors, c'est pas qu'une révolution. Mais c'est un langage qu'il faut qu'on accepte aujourd'hui. Le contradictoire, c'est les familles et les usagers qui participent à toutes les instances. Voilà, et c'est ce qu'on appelle le pouvoir d'agir, mais pas uniquement au niveau des salariés. Et ça nous a appris au moins ça, et ça a permis à l'équipe de le conscientiser. Mais l'éval, oui, elle a été plutôt positive.
Plutôt positive.
Voilà, ouais, plutôt positive.
Si on parlait de vous, alors vous êtes un éducateur dans l'âme, là. Vous avez commencé comme éducateur dans votre métier?
Alors, déjà, ça m'ennuie de parler de moi, M. Atenza, donc je vais être poli
à l'antenne, parce
que vous m'avez dit qu'il fallait que je sois poli.
Mais c'est un moment de vérité.
Je ne sais pas si c'est un moment de vérité, mais en tout cas, moi j'ai fait éducateur. Mais
peut-être que ça vous emmerde, hein. Allez, mais parlons de vous quand même.
Donc, de fait, en fait, j'y suis arrivé par hasard, en fait, dans ce secteur.
D'accord. En quelle année? Allez, premier poste d'éducateur.
Ouf, allez. C'était avant les années 80, hein, monsieur. je donne pas de date.
Ah, pas de date, très bien.
Il y a prescription. Non, on a le droit?
Oui.
Non, en fait, tout à fait par hasard, parce que j'étais plutôt branché sport. Et voilà, donc plutôt sur une volonté d'être prof d'éducation physique et sportive. Et puis le plus grand des hasards a fait que... je me suis retrouvé à être sollicité pour venir, entre guillemets, enseigner, c'est présomptueux, donc plutôt accompagner des enfants au centre départemental de l'enfance des Ardennes, de Belleville-sur-Barre. Et là, ça a été une rencontre et une vraie découverte. Et je me suis pris de passion par ce métier. Et en fait, le sport est devenu plus une médiation et un outil pédagogique au service d'eux qu'une fin en soi, alors que j'étais plutôt compétiteur. Enfin, je le suis toujours, mais plutôt dans ma fonction. Et ça a été une vraie découverte. Et donc, l'équipe de direction, avec le directeur qui, à l'époque, était déjà visionnaire, avec déjà des appartements dits thérapeutiques, etc., donc avant les années 80.
Avant les années 80, oui.
Voilà,
c'était visionnaire.
Voilà, donc avec un centre départemental de l'enfance qui était pluriel, avec de l'IMPRO, avec une petite structure MEX, avec ce qu'on appelle des ITEP aujourd'hui, ou des DITEP, qui étaient un IR. Enfin voilà, et pour moi, ça a été une vraie découverte, en plus dans une ambiance chaleureuse, conviviale, familiale, où les gens étaient, ils avaient construit des hébergements parce que c'était complètement excentré. À l'époque, c'était des préventoriums, sanatoriums. Et les hébergements du personnel se faisaient un peu à l'extérieur des bâtis de ce centre départemental, et ça a créé une osmose dans l'équipe, et honnêtement, j'en ai un souvenir ému, c'était très bien. Et donc cette rencontre a donné lieu à d'autres rencontres.
À tout un parcours.
Voilà, et effectivement, on va dire que chaque fois que je fais ou j'embrasse un métier, donc celui d'éducateur, aujourd'hui de celui de directeur, je suis plutôt quelqu'un qui m'engage, donc je prends les choses à cœur. Et je fais les choses jusqu'au bout. Je suis plutôt quelqu'un
d'exigeant.
Comment
on devient directeur? Alors là, un jour, vous dites, j'ai été chef de service, j'ai été directeur adjoint, je me regarde dans la glace et vous dites, je suis prêt. Ou c'est pas comme ça?
À chaque fois, rencontre et opportunité.
Rencontre et opportunité.
J'étais éducateur dans un établissement. Alors bon, je suis allé à la GOP en race depuis 1989. J'étais éducateur à ce qu'on appelait à l'époque l'école professionnelle Saint-Jean-d'Albi, qu'on appelle aujourd'hui le CEP. Et il y a eu une opportunité parce que le directeur me dit, au cours d'une discussion à bâton rompu, bah tiens, il y a un poste de chef de service, est-ce que toi t'es mobile, t'as pas forcément d'attache sur l'Albigeois, etc. Et du coup, je me suis retrouvé chef de service à Tarbes. Dans les Hautes-Pyrénées. Et puis, de fil en aiguille, le directeur me dit, écoute Gérard, moi j'aimerais, je suis pas loin de la retraite, que tu puisses me succéder. Hop, il m'envoie au CAFDES. On est dans les années 95.
Qui est le diplôme de référence dans le secteur de l'école de Rennes. C'était
le cas d'aptitude de directeur d'établissement social, médico-social. Et donc, d'opportunité en opportunité, donc ce directeur me disant, voilà, moi j'aimerais que, etc. Bah, ça s'est pas fait. Et puis, est arrivé un problème dans le département, dans le secteur social. Et le DG de l'époque m'a proposé de devenir directeur du foyer de l'enfance départemental, qui était associatif de la GOP. Et donc, en fait, de fil en aiguille, alors... Si je l'ai accepté, c'est parce que, comme je l'ai dit, je suis plutôt un compétiteur, je suis plutôt quelqu'un qui aime bien les défis. Je suis un vrai contradicteur. Moi, j'aime bien quand ça résiste.
Ah, vous aimez la dialectique, je sens, monsieur Brugère.
Oui, mais je ne comprends pas toujours tous les mots, monsieur Atenza. Donc, si vous le dites. Donc, mais c'est vrai que, voilà, je suis plutôt quelqu'un qui cherche un peu le contradictoire, la résistance, etc. Et c'est ce que je demande aussi aux équipes. D'une manière qu'on sorte un peu de cette toute-puissance, pas parce que vous êtes directeur que vous savez tout, et vous pouvez tout gérer, tout maîtriser, tout contrôler. Voilà, donc la question de la responsabilité m'a occupé, pas forcément la question du pouvoir. Alors forcément, les esprits chagrins disant « bah ouais, mais c'est facile de parler de responsabilité quand on a le pouvoir », puisque j'ai une délégation de pouvoir, c'est vrai, ils ont peut-être raison. Mais d'un autre côté, la question du pouvoir, c'est pas de pouvoir,
Il faut se soigner du pouvoir, c'est ça.
C'est ça, il faut savoir comment on veut l'incarner. Incarner le pouvoir pour le pouvoir, ça ne sert à rien du tout, et ça met à mal tout le monde. Et donc là, forcément... Donc, ça m'occupe, et encore maintenant. Mais ce qui m'occupe prioritairement quand même dans cette trajectoire, depuis que j'ai commencé, et qu'il y a eu cette rencontre avec les usagers, à l'époque que j'appelais les jeunes, et que je continue à appeler les jeunes...
C'est que vous êtes toujours enthousiaste, et que vous avez toujours envie de faire ce métier.
J'adore les jeunes que nous prenons en charge. Et que le leitmotiv que j'ai au niveau de l'équipe, quels que soient les postes que j'ai occupés, éducateur, chef de service, j'ai jamais été directeur adjoint, mais chef de service remplaçant permanent du directeur à la GOP, ça fonctionnait bien, et directeur, c'est la permanence de cet accompagnement des jeunes et de ce qu'on leur doit. Et la première chose qu'on leur doit, quel que soit l'acte qu'ils posent, c'est quand même de les aimer à minima. Même si on doit faire un gros travail, parce que forcément tous les bien-pensants, vont effectivement dire « Oui, mais attention, l'affectif, il faut s'en dégager. » Bah oui, il faut peut-être le penser, il faut le travailler, etc. Mais je pense pas qu'on puisse faire ce métier, en tout cas je suis passionné, sans aimer les jeunes. Enfin, les jeunes, la population que nous accueillons en tout cas.
Nous arrivons au terme de notre émission, monsieur Brugère. Merci d'avoir accepté de prendre la parole en direct, sentinelle d'humanité, parler de votre beau métier. Vous êtes un humaniste dans l'âme. Le dernier mot, pour vous, c'est quoi?
Le prochain challenge?
Le prochain challenge.
Je sais pas si j'ai,
c'est préparer
pas si j'ai
quelque
réussi.
Chose en particulier.
Oui, je sais pas si j'ai réussi ma vie professionnelle. Je ne sais pas si j'ai réussi ma vie affective. Mais j'espère que je vais pas rater ma retraite.
Ah, et vous préparez ça, c'est un vrai défi. Ça sera difficile. On vous sollicitera pour faire autre
fait.
Chose. C'est déjà fait. À toutes et à tous, chers auditeurs, Esprit Occitanie, sentinelle d'humanité, nous allons faire la trêve des confiseurs. Cette émission disponible dans un podcast dès la semaine prochaine. Et on se retrouvera dès les premiers jours du mois de janvier 2024. À toutes et à tous, excellente fête de fin d'année et à très bientôt.